Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je reçois aujourd'hui Isabelle Valentin, directrice générale de Sequano Aménagement. Bonjour Isabelle.
Bonjour Myriam.
Je suis ravie de te recevoir ici. Effectivement, après un parcours plutôt classique, tu as développé une très belle expérience sur les SEM en matière de développement. Bon, diplômée d'urbaniste de l'École nationale des ponts et chaussées, nous avons déjà ça en commun, avec une très beau parcours donc sur différentes SEM. Tu es depuis 2004-2017 à la Sodedad puis à la Sequano Aménagement, d'abord directrice de l'aménagement et maintenant directrice générale. Donc on est aujourd'hui dans une mutation extrêmement importante dans les métiers de l'urbanisme. Je vais tout de suite poser ma première question, puisque les métiers de l'urbanisme changent. Quelle est aujourd'hui la place d'une SEM comme Sequano Aménagement dans le concert des aménageurs privés et publics, hein?
Bonjour. Alors, les SEM aujourd'hui ont toute leur place dans le concert, comme tu le dis, privé-public, dans la mesure où je pense que nous sommes fondamentalement complémentaires. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons des fonciers qui sont facilement maîtrisables et dans lesquels il peut y avoir un développement privé sur une surface moyenne. Et d'un autre côté, il y a vraiment faire la ville sur la ville avec des problématiques très complexe en termes de foncier, en termes d'acquisition foncière. C'est vraiment de la fabrication du foncier à long terme. Le deuxième sujet, quand même, il faut reprendre la notion principale de l'aménageur. L'aménageur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui aménage et qui précise et qui va fabriquer tout ce qui est équipement public en lien avec le quartier développé. Donc nous avons, dans le cadre de notre mission en tant qu'aménageur public, non seulement la valorisation des terrains, ce que peuvent faire les privés, mais nous avons aussi l'accompagnement avec la collectivité de l'équipement, ce qui est aussi bien les VRD, les espaces publics, que les équipements publics. Et cette notion complémentaire est un élément fondamental, il me semble, de la référence et de la compétence des aménageurs publics.
Donc, effectivement, vous travaillez et vous aménagez avec les collectivités les espaces publics qui font aussi la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces espaces publics donnent une valeur à la ville qui est extrêmement importante d'une façon économique. Et tout le monde en a conscience, hein.
C'est une valeur importante au niveau économique, c'est aussi une valeur essentielle pour le vivre ensemble et l'équilibre de la ville. Nous avons un travail très important avec les collectivités pour avoir une réflexion sur la durabilité de la ville. C'est-à-dire que très fondamentalement, si nous continuons à développer des projets de logement, parce qu'il y a vraiment des besoins très importants, mais qu'à côté, on ne peut pas développer tout ce qui fait le lien entre la ville, c'est-à-dire les espaces publics et les équipements publics, on va vers de graves difficultés dans 20, 30 ans sur l'équilibre des quartiers. Et tous les projets de l'ANRU sur lesquels nous sommes aujourd'hui seront à nouveau d'actualité, parce qu'on se posera la question comment ces quartiers peuvent être équilibrés dans leur vie quotidienne.
Alors justement, ce que tu dis là vient peut-être un tout petit peu en contradiction, parce qu'il y a une question de temporalité sur les différentes consultations aujourd'hui, comme Inventer la métropole, les gares du Grand Paris, où on a l'impression qu'il y a une espèce d'accélération justement des opérations d'aménagement, donc une temporalité différente. Est-ce à dire qu'il y a des opérations qui ont deux vitesses?
L'urbanisme et l'aménagement, c'est un tout, je le disais tout à l'heure, c'est une complémentarité entre différentes réflexions et différents cas selon le lieu du projet et l'équipement déjà dans les quartiers concernés. Donc en fait, inventons la métropole, ça peut être pertinent sur des secteurs qui ont déjà une réflexion d'ensemble où on peut développer un équipement où les équipements sont déjà développés. C'est-à-dire que on peut avoir de leviers. On a un levier court terme.
Oui.
Mais ce levier court terme doit être en complémentarité d'une réflexion à moyen et long terme qui doit accompagner ces projets court terme. Ce qu'il ne faudrait pas faire, mais bon, je pense que les collectivités
en sont bien conscientes,
ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est simplement lancer des projets court terme qui seront dans le cadre d'Inventons la métropole et de ne pas travailler la couture avec le reste de la ville.
C'est-à-dire ne pas avoir d'effet communication seulement, c'est-à-dire ne pas être simplement dans l'image et dans la communication, mais être vraiment dans le fond.
Oui, c'est pas forcément une image de communication, c'est surtout d'avoir un ensemble immobilier qui soit complètement déconnecté de la ville et qui une espèce d'îlot innovant et très dynamique à côté de secteurs qui sont absolument pas développés ou qu'il n'y a absolument pas de lien. C'est très important d'avoir une couture entre ces projets et la réalité de la ville.
Donc justement, je vais donc un petit peu en polémique. On sait très bien aujourd'hui que les opérations sont souvent menées aussi par des promoteurs qui se substituent parfois aux aménageurs. Est-ce que le métier est en train d'évoluer ?
Tous les métiers évoluent, et puis je pense que c'est un bien. Enfin, on ne fait plus l'aménagement comme on le faisait il y a 30 ans, et je pense que c'est un bien. Le partenariat existe entre les privés et les publics. On a une synergie. Je dirais que la méthode aussi d'avoir une réflexion de production commune est intéressante. Sur le privé et le public, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la même temporalité, c'est-à-dire que je rappelle juste que dans les années 90, les promoteurs aussi avaient développé des structures d'aménagement privées, et puis il y a eu quelques difficultés économiques, et comme le temps d'aménagement est très long, il n'y a pas eu un retour sur investissement. Que les structures privées ont besoin. Donc il y a ces de temporalités qui sont très importantes et qui sont complémentaires. Et puis les métiers évoluent dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, les aménageurs, on est aussi en train de développer de la promotion d'utilité
et
publique,
où
ce sont des montages complexes. Donc entre notre savoir-faire en termes d'équipement public, notre savoir-faire en termes d'accompagnement des collectivités et d'une lecture sur la stratégie territoriale et la dynamique des promoteurs qui savent faire le projet immobilier en tant que tel, il y a vraiment la possibilité de travailler ensemble. Donc moi, je ne serais pas pour opposer l'un et l'autre, je dirais qu'il y a vraiment des méthodes de travail à continuer à développer ensemble pour avoir justement un équilibre et un grand pari qui soit très dynamique et qui permette d'avoir une qualité de vie absolument durable par rapport à ce qu'on a à présent.
Et alors justement, pour parler du faire ensemble, aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus d'urbanisme participatif, puisqu'il y a des opérations formidables avec de l'urbanisme éphémère, des habitants, des intervenants, des artistes qui viennent aujourd'hui sur les ZAC et sur les opérations d'aménagement. Est-ce qu'il y a une dose de plus grande de participatif aujourd'hui dans vos opérations ?
Bien sûr, l'animation participative est très importante. Là, c'est aussi une méthode de faire qui évolue en termes d'aménagement.
Qui est très innovante.
Il faut d'ailleurs, on réfléchit d'ailleurs à plusieurs aménageurs pour savoir comment développer cette méthode participative avec l'évolution du projet, puisqu'on a des règles avec des créations, des dossiers de réalisation qui sont un peu figés.
Contraignantes.
Et qu'il faudrait faire évoluer dans le futur pour justement intégrer cette réflexion de participation. participatif. Il y a aussi un deuxième sujet qui est important, qui est le temps présent. Et justement, dans notre réflexion, donc vous l'avez bien compris que nous, ce qui est vraiment le moteur de notre réflexion, c'est d'inclure l'habitant d'aujourd'hui, l'habitant de demain et celui d'après-demain. Donc l'habitant d'aujourd'hui ne doit pas
se sentir exclu.
Donc on est dans cette réflexion, on a déjà développé sur le canal de l'Ourcq plusieurs expériences pour justement faire en sorte que ces nouveaux quartiers sur lesquels nous allons investir soient en écho aux habitants actuels et que les habitants se sentent concernés par ce projet.
Bien sûr, qu'il n'y ait pas, je dirais, une exclusion de ces habitants avec des nouveaux habitants qui arrivent et qu'il y ait une vraie intégration aux collectivités, aux villes, aux scolaires. C'est aussi important pour les enfants. J'ai vu qu'il y avait des ateliers pour les enfants.
Nous avons effectivement animé à Noisy-le-Sec pendant une année dans un établissement scolaire tout un atelier avec des professionnels de l'aménagement pour partager avec les scolaires ce que le projet allait devenir, parce que c'est aussi pour ces enfants, ils vont être mitoyens d'un gros projet d'aménagement et il faut aussi qu'ils se l'approprient. Et c'est vraiment une expérience très intéressante que nous avons menée et que nous souhaitons bien évidemment développer dans les futurs projets que nous aurons. C'est cette collaboration entre les habitants actuels et les futurs projets. C'est indispensable et je pense que c'est vraiment, vraiment un élément que nous devons continuer à porter en tant qu'aménageur public.
Alors c'est formidable cette fin d'interview parce qu'effectivement on arrive au cœur, je dirais, des vraies préoccupations, des préoccupations des aménageurs, des élus et de tous les intervenants à la ville, c'est-à-dire qu'une la ville, elle se fait avec les habitants, avec le social, avec l'économique, avec les emplois. Et qu'est-ce que serait l'urbanisme formidable et créatif de demain? C'est celui-là?
Oui, tout à fait. L'urbanisme créatif, c'est vraiment un urbanisme qui prend en considération toutes les composantes d'une ville. Je pense qu'il ne faut pas saucissonner la conception d'une ville. C'est un tout et bien évidemment, il faut prendre en considération aussi bien le côté technique, le côté matériel du projet, mais c'est surtout l'habitant.
Le côté humain. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup Isabelle pour cet entretien et puis peut-être l'année prochaine pour parler d'autres projets.
Eh ben je serais ravie de revenir sur Radio Immo.
Merci Isabelle, au revoir.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.